Vous écoutez, on lit pour vous.
Interdiction des véhicules à essence en 2035. Les stations d'essence pas près de disparaître. Un texte de Frédéric Lacroix Couture de la Presse canadienne, paru le 7 août 2024 dans la presse. Bien que leur nombre ait diminué, les stations d'essence ne sont pas près d'être rayées de la carte avec l'électrification des transports, selon des observateurs. Certaines amorcent tout de même déjà un virage afin de s'adapter à la transition énergétique. À l'instar d'Ottawa, Québec veut interdire la vente de véhicules légers à combustion neufs à compter de 2035. Le gouvernement Legault a déposé au début de l'été 2024 un projet de règlement en ce sens. Il fait l'objet d'une consultation publique jusqu'au 25 août 2024. Si cette réglementation se matérialise, elle ne signerait pas pour autant l'arrêt de mort immédiat des essenceries. Plusieurs facteurs laissent croire que ce secteur jouera un rôle important pour encore longtemps, disent des experts. Une auto est fonctionnelle pour une bonne dizaine d'années en moyenne. Cela implique que le marché de l'essence pour automobile demeurera assez actif pendant plusieurs années après 2035, souligne le professeur agrégé au département d'économie de l'Université Laval, Patrick Gonzalez. Certaines catégories de véhicules, comme les camions lourds, seraient épargnés par l'interdiction. Les véhicules légers électriques, c'est un petit secteur du transport. Et même s'il diminue à l'horizon 2035, 2040 ou 2050, il y aura un besoin de carburant liquide pour encore très longtemps au Canada, affirme le vice-président pour l'Est du Canada de l'Association canadienne des carburants, Carole Montreuil. Dans une analyse, le gouvernement québécois présente les impacts de son projet de règlement sur les grossistes marchands de pétrole, les raffineries et les stations-service. Il calcule que 945 000 litres de carburant et 803 000 litres d'essence ne seront pas vendus en 2035. Les pertes annuelles des ventes et des marges sont estimés à près de 495 000 $, dont une part importante est liée aux raffineries. À titre comparatif, les ventes brutes d'essence pour véhicules automobiles ont atteint plus de 8,7 milliards de litres au Québec en 2022, rejoignant presque le niveau pré-pandémique, d'après des données de Statistique Canada. Le professeur Pierre-Olivier Pinault, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal, avance que 2035 ne sera pas une année de rupture pour les stations-service, mais plutôt une de transition. Selon lui, la tendance à la baisse du nombre de stations-service devrait tout de même en principe s'accentuer. Le Québec comptait 2 779 essenceries en 2022 contre 2 985 en 2010, indique le plus récent recensement de la Régie de l'énergie. La station-service de demain. Arnois Énergie, qui compte plus de 450 stations d'essence au Québec et dans les Maritimes, se prépare en vue de 2035. L'entreprise fait des prévisions à l'interne en se basant sur les ventes d'auto à combustion et électrique. Au cours des prochaines années, on prévoit peut-être des décroissances de 1-2 % du nombre de litres vendus jusqu'en 2030. Et après, ça va être des décroissances plus grandes, explique Serge Arnois, PDG d'Arnois Énergie. C'est dans ce contexte que la société de distribution diversifie son portefeuille d'activités en se tournant notamment vers les carburants pour l'aviation, les lubrifiants et le propane. Elle injecte aussi beaucoup d'argent pour diversifier ses sites au détail. Selon M. Arnois, ce sont des dizaines de millions par année pour agrandir les dépanneurs, ajouter des lave-auto, des restaurants, pour ajouter du prêt-à-manger, mettre plus d'épiceries. Je pense que nos dépanneurs vont se transformer en points d'approvisionnement pour la restauration rapide, le prêt-à-manger, tout en vendant aussi de l'essence. En 2035, disons que les ventes d'essence ont baissé de 30 %. On espère que ces pertes vont être compensées par des marges supérieures et par d'autres ventes que l'essence, expose M. Arnois. Comme d'autres essenceries, Arnois Énergie s'adapte aussi à l'essor des véhicules électriques avec l'installation de bornes de recharge. La Régie de l'énergie observe un nombre croissant de stations offrant ce service. Elles étaient 130 en 2022, alors que 3 ans plus tôt, on n'en recensait que 38. La Régie prévient toutefois que ces chiffres ne sont pas représentatifs de la réalité, étant donné la complexité de dénombrer les différentes initiatives. M. Arnois note que le retour sur l'investissement des bornes de recharge n'est pas au rendez-vous. Ce n'est pas notre pain et notre beurre. La technologie change tellement rapidement que ce n'est pas facile à rentabiliser, explique-t-il, soulignant que la majorité des recharges se font à la maison plutôt que sur la route. M. Pinault est d'avis que les volumes de vente d'électricité remplaceront difficilement les volumes d'essence. L'un des éléments qui rendent la voiture électrique supérieure, dit-il, c'est qu'elle consomme beaucoup moins d'énergie. Ça va être difficile d'augmenter les prix à un point tel qu'on va rattraper les volumes perdus avec des prix plus élevés pour les stations-service. Et il demeure possible que l'interdiction ne voit jamais le jour ou que son échéancier soit repoussé en raison de facteurs économiques ou politiques, estiment les spécialistes interrogés. C'était Interdiction des véhicules à essence en 2035, Les stations d'essence pas près de disparaître, un texte de Frédéric Lacroix-Couture de la Presse canadienne, paru le 7 août 2024 dans La Presse.
La lecture en cadeau, un texte de Salomé Corbeau, paru le 14 août 2024 dans Le Devoir. Au moment où j'entame la rédaction de cette chronique, nous sommes le lundi 12 août 2024. À cette date, depuis 10 ans, on propose à la population de se procurer un livre québécois. Il s'agit d'une formidable façon de mettre en lumière le travail exceptionnel des maisons d'édition québécoises et celui de nos artistes littéraires. De plus, depuis 4 ans, la Fondation pour l'alphabétisation est associée à cette journée pour promouvoir son programme « La lecture en cadeau ». Au moment de se procurer un livre pour eux-mêmes, les adultes sont invités à faire d'une pierre 2 coups et à en acheter un second dans la section jeunesse et à le mettre dans une boîte de collecte directement en librairie pour qu'il soit ensuite remis à un enfant issu d'un milieu défavorisé. Je tenais personnellement à vous parler de cette extraordinaire initiative. Bien entendu, mon jupon dépasse amplement ici, je vous le confie en toute transparence, puisque je suis co-porte-parole avec Philippe Audrey Laruche-Saint-Jacques de la Fondation pour l'alphabétisation. En plus d'offrir des services d'aide aux adultes aux prises avec des problèmes de littératie, la Fondation a mis sur pied en 1999 ce programme qui permet d'offrir un livre neuf aux enfants qui n'ont pas la chance d'en recevoir. Sachant que la lecture est un facteur déterminant dans la lutte contre le décrochage scolaire et donc l'analphabétisme, il est devenu évident qu'il fallait intervenir le plus tôt possible chez les enfants du Québec. En l'espace de 25 ans, ce sont plus de 1 500 000 livres qui ont été offerts à des jeunes de 0 à 12 ans, et ce, partout dans la province. Cela fait plus de 10 ans que je collabore avec la Fondation et que j'ai la chance d'assister aux remises de livres dans différentes écoles du Québec. J'aurais mille et une anecdotes touchantes à vous raconter. Je pense au petit Mohamed qui s'écrie victorieux en découvrant son livre. « Ah, génial, je ne l'ai jamais lu, celui-là. » Évidemment qu'il ne l'avait pas lu. Il était en première année et venait tout juste d'apprendre à lire. Il y a aussi les dizaines d'enfants que j'ai vus demander et redemander à leur enseignante. « Madame, vous êtes sûre que je peux le garder pour toujours ?» Ce qui laisse sous-entendre que d'habitude, le livre appartient à l'école ou à la bibliothèque et qu'enfin, il allait leur appartenir pour toujours. Je me rappelle aussi cette enseignante venue me raconter qu'elle avait reçu un livre du programme quand elle était petite et que ça lui avait donné la piqûre de la lecture, à tel point qu'elle tentait aujourd'hui de transmettre cet amour aux nouvelles générations. On me demande souvent pourquoi le fait que le livre soit neuf est si important, alors qu'il existe beaucoup d'options pour se procurer des livres d'occasion à moindre coût. C'est là qu'entre en jeu la symbolique du cadeau. L'objet neuf est perçu par l'enfant comme quelque chose de rare et de précieux. Ce livre devient comme un petit trésor auquel il va s'attacher. Une fois qu'il sera tombé amoureux des livres, il aura tout le loisir de fréquenter les bibliothèques et les librairies de seconde main. Parfois, il suffit qu'on vous offre quelque chose pour que vous en mesuriez la juste valeur. Moi qui suis issu d'une famille d'intellectuels, je n'aimais pas lire. Ma mère lisait des heures durant. Nos bibliothèques étaient pleines, mais je trouvais ça d'un ennui mortel, mis à part les bandes dessinées Mafalda. Je préférais de loin chevaucher mon BMX, faire du patin à roulettes ou construire des cabanes dans les arbres. Mais, un jour, un ami de ma mère m'a offert « Zazie dans le métro » de Raymond Queneau. J'avais environ le même âge que le personnage principal et je connaissais le métro de Paris comme le fond de ma poche. Il n'en fallut pas plus pour qu'immédiatement je m'identifie à Zazie et dévore le livre. Par la suite, on m'a offert « Au bonheur des ogres » de Daniel Pennac et « Rebelote ». Je me suis attaché à la famille Malocène et je suis devenu une grande lectrice. La journée du 12 août est maintenant derrière nous, mais les boîtes de collecte sont encore dans les librairies et elles y resteront jusqu'après les fêtes. Si vous avez envie de transformer la vie d'un petit Québécois, c'est l'occasion de laisser votre enfant intérieur prendre le contrôle. Il suffit de le laisser vous guider dans la section jeunesse. Vous pourrez choisir le livre qui vous plaît. Il n'y a pas de mauvaise lecture. Que ce soit un livre sur le hockey, une bande dessinée sur le caca, oui, ça existe, ou un livre poétique sur les fleurs et les fées, tout est valable. L'important, c'est de piquer la curiosité des petits lecteurs, sans oublier le groupe d'âge des 0 à 5 ans. Bien que ces bambins ne sachent pas lire, on peut leur donner l'habitude d'ouvrir et de regarder des livres. Il existe même des livres conçus pour le bain, et contrairement à moi, qui échappe toujours mon livre dans la baignoire, eux n'auront pas peur que les pages gondolent. On dit souvent que les enfants sont notre avenir. Cet avenir, je l'espère, en santé et éduqué. Je rêve que tous les adultes de demain soient capables de lire et d'écrire à la hauteur de leur potentiel et qu'ils aient la possibilité d'exercer le métier de leur choix. Et si tout commençait par un livre offert avec bienveillance par les adultes d'aujourd'hui? C'était « La lecture en cadeau », un texte de Salomé Corbeau paru le 14 août 2024 dans Le Devoir.
Ce qu'en disent les experts. Un texte d'Anaïs Desjardins et Mégane Foy, paru le 19 août 2024 dans la presse. D'une commande à l'autre, rien ne se ressemble. Processus d'emballage, lieu de préparation, méthode de livraison, rayon de desserte. La presse s'est entretenue avec des experts pour y voir plus clair. À partir de quand un article est-il suremballé? Suremballé signifie emballer plus que ce qu'exige un produit pour être protégé des dommages, explique Amélie Côté, analyste en réduction à la source à Équiterre. Comme les livraisons d'épicerie sont réalisées dans un court délai, les risques liés à la détérioration des aliments sont très limités, à son avis. Les emballages représentent près de la moitié des déchets plastiques au Canada, selon des chiffres fournis par Équiterre. Lorsque les emballages sont recyclables ou compostables, sont-ils nécessairement meilleurs pour l'environnement? Pas exactement. Ça ne veut pas dire que c'est recyclé ou composté, malheureusement. Ça dépend des municipalités et des centres de tri et s'ils les acceptent, résume Mme Côté. Les sacs à usage unique dits recyclables que nous avons reçus ne sont donc pas gage d'un meilleur choix pour l'environnement, puisque certains centres de tri ne les prennent pas en charge. Il en va de même pour les sacs compostables qui se retrouvent parfois mêlés aux autres dans le bac de recyclage. Ainsi, l'ensemble des sacs qui doivent être retirés du processus en centre ont un coût de tri très élevé. En 2016, il s'élevait à 455 $ par tonne, d'après la plus récente analyse des coûts par activité de Recyc Québec. En fait, tous les sacs à usage unique reçus lors de livraison sont faits à partir de polyéthylène, explique Abdellah Hadji, directeur du département de génie chimique de Polytechnique Montréal. D'après les données du bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles au Québec, le plus récent disponible, seuls 18 centres sur 27 au Québec trient les sacs et les pellicules. Ces centres de tri traitent toutefois 82 % des matières recyclables de la province. Pourquoi y a-t-il autant de disparités entre les différentes épiceries? Centre de distribution ou épicerie locale? Directive établie par la société mère ou par chaque franchisé? Livraison par l'épicerie ou par Uber et DoorDash? L'expérience de la presse a révélé qu'il existe autant de façons de procéder qu'il existe d'enseignes. C'est une question de processus, estime Amélie Côté. Selon une étude réalisée par Équiterre en 2023, les épiceries affirment que la gestion et la logistique interne sont les principaux freins à ce que les directives soient les mêmes partout en matière de réduction des déchets. Comment les épiceries pourraient-elles réduire le suremballage? S'il y a une épicerie qui réduit le suremballage comme Provigo, ça veut dire que toutes les autres sont en mesure de le faire, croit Amélie Côté. Et pour l'emballage de transport? Les détaillants devraient choisir des emballages pris en charge par les centres de tri des déchets ou mettre en place un système de rotation des boîtes, selon Mme Côté. Quand on livre une boîte, on reprend l'ancienne et ainsi de suite, explique-t-elle. Ultimement, ce qu'on vise, c'est la réduction à la source, indique Patrick Faubert, directeur de la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi, UQAC. Le gouvernement pourrait-il encadrer le suremballage? En France, il y a des cibles claires de réduction des emballages à usage unique. Une partie de l'offre des grands commerces doit aussi être en vrac. C'est une avenue que le gouvernement pourrait mettre en pratique ici, estime Amélie Côté. Et la popularité des commandes en ligne dans les épiceries ne cesse de croître. Un contrepoids négatif aux nombreuses initiatives des municipalités qui bannissent des articles à usage unique, résume l'analyste d'Équiterre. Pour y parvenir, elle estime qu'il faut plus de données. Un des grands enjeux, c'est qu'on n'a pas de portrait de la situation et que c'est difficile de légiférer. Au lieu de prendre la voiture pour aller à l'épicerie une fois par semaine, serait-ce plus éco-responsable de faire livrer sa commande? Dans une optique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, GES? Oui, certainement, s'exclame Patrick Faubert, directeur de la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi. Plusieurs études réalisées à l'international dont un rapport paru dans le magazine américain Environmental Science and Technology en 2022, permettent à M. Faubert d'affirmer que les commandes en ligne génèrent moins d'émissions de GES que de se déplacer personnellement en auto, puisque cela limite le transport. Mais il faut regrouper les achats de la semaine dans une seule épicerie et donc possiblement rater des occasions d'aubaine. D'ailleurs, si les grandes villes optimisent le transport, ce n'est pas le cas pour les régions éloignées. Toutefois, le mieux, c'est de ne pas emballer son épicerie et, idéalement, de se déplacer à pied ou à vélo, croient les experts consultés par la presse. L'épicerie en ligne est aussi un service essentiel pour certaines personnes, notamment celles à mobilité réduite. Dans de tels cas, les clients peuvent choisir l'épicerie qui convient le mieux selon leurs valeurs, en se renseignant sur l'emballage et le processus de livraison, croit Mme Côté. C'était « Ce qu'en disent les experts », un texte d'Anaïs Desjardins et Megan Foy, paru le 19 août 2024 dans La Presse.
Sauver les confitures Tigidou. Un texte de Sylvain Charlebois, paru le 25 juillet 2024 dans La Presse. Pour de nombreuses personnes, le code de conduite des épiceries reste un mystère. Essentiellement, le code donnera une meilleure chance aux petites entreprises comme la confiture Tigidou d'avoir accès à un plus grand marché. Plus de concurrence, plus de choix, et voilà, nous y gagnons tous. Connaissez-vous des entreprises qui payent leurs clients pour faire des affaires avec elles? Pourtant, le secteur agroalimentaire fonctionne de cette façon. Des géants comme PepsiCo, Mondelez et Coca-Cola, jusqu'aux entreprises locales comme La Sonde, se voient contraints de payer des frais importants aux grandes chaînes de supermarchés comme Loblaw, Provigo, Maxi, Sobeys, IGA et Metro pour y vendre leurs produits. Au Québec seulement, on compte 3000 entreprises de transformation qui exercent leurs activités sous ces contraintes, souvent à l'insu des consommateurs. Historiquement, le rapport de force a toujours favorisé les détaillants. L'annonce récente que les géants américains de la vente au détail, Walmart et Costco, allaient adhérer au code de conduite des épiceries, aux côtés des colosses canadiens Loblaw, Sobeys et Metro, marque un tournant décisif dans l'évolution du secteur des épiceries au Canada. Pour plusieurs, le code de conduite des épiceries reste un mystère. En substance, ce code vise à améliorer la concurrence sur le marché canadien en imposant plus de responsabilité et de transparence dans l'industrie alimentaire, ciblant notamment les pratiques qui se déroulaient traditionnellement dans les coulisses. Sous ce nouveau régime, diverses pratiques, comme les frais exorbitants facturés aux fournisseurs par les détaillants, seront soumises à un examen et à une négociation plus équitable. Plus concrètement, prenons l'exemple d'une petite entreprise, les confitures Tigidou à l'île d'Orléans, qui souhaiterait distribuer ses produits à travers la chaîne Loblaw Provigo Maxi. Par le passé, une telle option était inimaginable pour un petit producteur québécois. Initialement, un épicier pouvait imposer des coûts de référencement et d'autres frais s'élevant à plus de 100 000 $ annuellement. Et oui, avant même qu'un seul pot de confiture soit vendu, Loblaw Provigo Maxi exige des paiements. Au fur et à mesure que le produit gagne en popularité, ses frais peuvent augmenter de façon importante, forçant le fournisseur à augmenter ses prix pour maintenir sa rentabilité. Ce cycle vicieux contribue à la volatilité des prix courants, au détail, et pénalise finalement les consommateurs. La mise en œuvre du code est destinée à atténuer ce genre de scénario en régulant l'escalade des frais et en favorisant un environnement de tarification plus stable. À long terme, cela se traduit par un avantage pour tous. De plus, le Code promet un terrain de jeu plus équitable pour les épiciers indépendants qui pourront négocier à des conditions mieux équilibrées. Même si des géants comme Loblaws et Walmart maintiendront une influence marquée sur le marché, leur comportement devrait devenir moins prédateur sous les nouvelles directives. Le besoin pour l'industrie de redorer son image devient crucial, surtout à la suite de scandales comme celui de la fixation des prix du pain. Ces événements ont gravement terni la perception publique des épiceries. Des figures clés comme Michael Medline, PDG de Sobeys, ont joué des rôles pivots dans l'avancement du code. L'appel de Medline à plus de discipline et de respect au sein de l'industrie, ainsi que le plaidoyer infatigable de Michael Graydon et de Sylvie Cloutier, au nom des fabricants alimentaires canadiens, ont considérablement façonné le discours et mobilisé le soutien parmi les décideurs politiques. Les efforts de figures politiques, le ministre québécois de l'Agriculture, André Lamontagne, François-Philippe Champagne au fédéral, et le comité parlementaire de l'Agriculture, présidé par le député Cody Blois, ont également été cruciaux pour positionner le code comme une stratégie essentielle afin de stimuler la concurrence et d'améliorer les relations avec les fournisseurs au Canada. Avec la mise en œuvre du code, les fabricants de produits alimentaires et les épiciers indépendants gagneront une voix plus forte, conduisant à une plus grande diversité de produits pour les consommateurs. Une équation simple. Un plus grand nombre de fournisseurs entraîne un plus grand choix sur les étagères. Autrement dit, des produits novateurs, comme les confitures Tigidou, auront une meilleure chance de survie avec le code. Bien que sécuriser l'engagement des 5 grands détaillants constitue une réalisation louable, le véritable défi réside dans la garantie de la conformité et des résultats tangibles. Le scepticisme persistera probablement jusqu'à ce que les avantages de ces réformes puissent s'observer de première main, un sentiment à la fois compréhensible et justifié. C'était « Sauver les confitures Tigidou », un texte de Sylvain Charlebois, paru le 25 juillet 2024 dans La Presse.